Le village historique acadien vous présente la chronique « Dans ce temps-là » avec Philippe Basque.
Philippe, il y a quelques sujets à nous proposer ce matin. Entre autres, il y a les rendez-vous de l'histoire ce soir du côté de Caraquet. Bonjour Philippe.
Bonjour Claude.
Alors ce soir, c'est quel sera le sujet abordé par les gens qui seront là?
Fait que là, ce soir, Clarence Le Breton va commencer une série de conférences sur les grands personnages du Grand Caraquet. Puis, je sais pas si c'est Clarence qui a eu cette idée-là, ou c'est la ville de Caraquet, ou Aline Landry de la ville, mais il va faire un concours de qui ce qui était comme la plus grande personnalité pour la grande région de Caraquet au 20e siècle. Fait que là, les gens qui participent auront le droit de vote pour qui ce qui est leur personnalité préférée ou qui ce qu'ils pensent qui a été le plus significatif durant les différentes sessions de conférences. Fait que là, aujourd'hui, ce soir, c'est à 7h à soir au Centre culturel, puis à 7h. Ce soir, c'est les personnalités du début du 20e siècle. Fait qu'il y a des gens qui sont nés comme dans les années 1800, puis qui ont commencé leur carrière à la fin des années 1800, puis qui sont décédés éventuellement dans les années 1900. Fait que eux, c'est ça leur conférence. Aujourd'hui, il y a 5 personnages. Je me suis juste rappelé de 4 des 5. Si vous voulez savoir qu'est-ce qui est le 5e, il faudra aller là à soir. Le premier, c'est Dr. Como. On a déjà eu une chronique sur Dr. Como. On a déjà eu une chronique l'année passée, je pense, ou l'année d'avant, ça commence à en avoir beaucoup. Puis lui est originaire de Petit Rocher, ça va être le premier médecin à s'installer d'une façon comme privée à l'extérieur du lazaret, disons, dans la région de la péninsule acadienne. Fait que lui, il avait étudié en médecine, il avait installé son bureau à Petit Rocher, où est-ce qu'il était originaire, mais après ça, il a déménagé à Caraquet dans les années 1890, puis il va œuvrer à Caraquet pendant une quarantaine d'années. Il va être, lui puis les autres, tous ces personnages-là du début du siècle vont tous se connaître, vont tous se côtoyer, vont siéger sur les différents comités. Le docteur Como, à un moment donné, va être un responsable ou un représentant durant la convention des Acadiens de 1905 à Caraquet. Fait qu'on voit sur des photos, tout ça. C'est un grand personnage de l'histoire du Nord-Est, dans le fond, de tout le Nord-Est. Mm-hmm. Parce que lui, dans ce temps-là, avait un grand territoire, les médecins, comme le docteur Gauthier à Chipagan ou le docteur... Paulin, tu sais, à Tracadie, ces gars-là avaient des grands territoires à couvrir. C'est eux qui se déplaçaient aux maisons. Ceux qui vivaient plus proches, pouvaient se déplacer au bureau parce que c'était tout à pied ou
en cheval, parce qu'il y avait pas de voiture. Il n'y avait pas de voiture.
Bathurst, la même chose. Bathurst avait des médecins, mais dans les environs, là, il n'y avait pas beaucoup de médecins. Ça, c'est un des personnages qu'on va voir en détail ce soir. Un autre qu'on a déjà eu une chronique, je pense, dessus, c'est Nazaire Dugas. Donc, Nazaire Dugas, lui, c'est comme le premier Acadien qui va devenir architecte, qui est né en Acadie, là. Il est né dans le Nord-Est. Puis, lui, encore, là, va étudier à l'extérieur, va aller étudier au Québec en quelque part, puis il va commencer à faire des plans d'architecture, beaucoup pour le Grand Caraquet, puis surtout dans les différentes églises, les couvents, on va spécialiser là-dedans. Il va faire beaucoup de maisons, avec des toits mansardes, là, qui est comme une certaine structure. Là. Mm-hmm. Il va faire des rallonges pour le collège de Caraquet, il va faire une allonge pour le couvent de Caraquet. Il va faire différentes églises. Je pense qu'il va faire celle de Saint-Simon puis de Bertrand, là, si je me rappelle bien. Je pense qu'il va même faire celle de Sainte-Marie-Saint-Raphaël. Puis, je pense qu'il va participer aussi à l'Académie Sainte-Famille, mais ça, dans mes souvenirs, il me semble que la religieuse qui était comme en chef là avait fait un plan, puis lui, il avait comme aidé ou assisté ou quelque chose de même.
OK, d'accord.
Puis, Nazaire avait fait beaucoup de plans de maison aussi qui existent encore aujourd'hui, là, comme où est-ce qu'il était jusqu'au convent des Huit au Caraquet, là, à Caraquet, dans Saint-Denis-du-Bocage, les Huit des Dugas. C'est soit la maison ou soit le magasin là, qui avait été, ou les deux, qui avaient été dessinés par Nazaire Dugas. Là. Il avait fait sa maison lui aussi. Fait qu'il y a beaucoup de bâtiments qui existent encore, qui ont été fabriqués par ses plans à lui. Le château Albert au village acadien, ça vient de ses
plans. Ça vient de lui aussi?
Oui, fait que lui a été beaucoup influent au début des années 1900. Il y avait une compagnie aussi avec son frère. Fait qu'on va tout voir les détails de tout ça à la conférence. Un autre personnage, c'est Pépé Moret, qui était Pierre Moret. Que lui, c'était un gars qui était beaucoup impliqué dans la communauté, la politique. Je pense pas qu'il ait été député officiellement, mais... Un homme d'affaires, il était dans les différentes compagnies, toutes sortes de choses qu'il y avait à Caraquet. Lui, il était originaire de Bas-Caraquet. Il écrivait beaucoup dans le journal, lorsqu'on lit l'Évangeline de cette époque-là, jusque dans les années 1930. Je pense qu'il est décédé à la fin des années 30. Lui, il écrit beaucoup de différentes choses. Il va être ce qu'on appelle un correspondant. Okay. Fait qu'à l'époque, les journaux, ils ont des correspondants sur le territoire. Fait que disons que moi, j'ai un journal, de l'Évangeline qui est à Moncton. Ben, si je veux avoir des nouvelles de Bathurst ou si je veux des nouvelles vraiment précises de Beresford, de Nigadoo, de Pointe-Verte.
Il va les inclure dans...
Ça prend quelqu'un de toutes ces petites communautés-là de tout, tout partout dans la péninsule aussi, puis pour m'envoyer des lettres pour me dire qu'est-ce qui se passe. Parce que souvent, lui, il écrivait des choses comme ça. Puis, mais il écrivait aussi des espèces d'opinions du lecteur, puis des, tu sais, comme ça prendrait un pont ici, ou ça prendrait un quai, ou ça prendrait un service de ci. Puis, fait que lui, il avait beaucoup de choses comme ça. Après ça, le quatrième, c'est Tranquille Blanchard, qui, lui, est décédé au début du 1900. Lui, c'était un député. Il était présent durant l'émeute de Caraquet dans l'affaire Louis Maillot. Il va être député pendant plusieurs années. C'est un homme d'affaires également. Donc, lui est beaucoup impliqué dans la région de Caraquet, Tranquille Blanchard. Puis le cinquième, ben là, j'ai oublié. Mais si vous venez à soir, vous pourrez toutes les voir, tous les cinq.
Et ça va se dérouler sur combien de mois?
Parce qu'il y a au moins deux, là. Je ne sais pas si c'est trois, mais je sais que c'est le mois prochain aussi, ou peut-être en décembre. Là, ça va être comme l'autre moitié du 20e siècle. Fait que là, il va y avoir différentes personnes qui vont être présentées, cinq ou six personnes encore là. Puis après ça, ben, les gens voteront là, probablement ce soir-là. Pour qui était la personnalité qu'ils trouvaient qui était la plus influente. C'est un petit concours qu'ils font. Là,
ouais, c'est le fun. Ça fait connaître l'histoire en plus.
Ça, ben oui.
Et vous, de votre côté, vous allez vous rendre du côté de Chipagan pour une conférence audiovisuelle?
Oui, c'est ça. C'est le 27 octobre. C'est la journée nationale ou la journée internationale de l'audiovisuel. Et puis, la Société historique Nicolas Denis, l'année passée, avait souligné ça également. Je pense que c'est le 25 octobre, mais ils font ça ce dimanche, le 2 novembre. Et puis, ils m'ont invité à venir parler de qu'est-ce qui est audio. Moi, c'est beaucoup audio, c'est peut-être moins vidéo, là, mais moi, je fais beaucoup d'enregistrement avec les personnes âgées, puis c'est de savoir comment on peut utiliser ce médium-là.
Ça fait combien de temps que vous faites des enregistrements avec des personnes âgées, Philippe?
Moi, je fais ça depuis 2010, ça fait 15 ans que je fais ça. Puis, mais ça a commencé dans les années 50, fait que c'est de montrer aux gens, durant la présentation, qu'est-ce qui s'est fait depuis les années 50. Dans la région Chaleur, il y en a moins eu. Je ne sais pas pourquoi il n'y avait personne localement qui a été tant que ça, mais il y a quand même certains chercheurs qui ont été dans les années 70. Mais dans la péninsule, il y a eu Luc Lacourcière, puis Monseigneur Savard, qui étaient des gens du Québec, qui ont venu à partir de 1950, peut-être même dans les années 40, mais à l'entour de 1950. Eux autres, c'était surtout enrichir les contes, les légendes, puis des chansons. C'était pas nécessairement le quotidien de tous les jours, quoi qu'ils en fassent un peu. Puis, à partir d'eux autres, ben là, le docteur Gauthier va commencer à faire des enregistrements pendant une dizaine d'années. Il va faire ça de 1950 à 1960.
Ça veut dire qu'à ce moment-là, Philippe, c'était sur ruban?
Ah oui, c'était une grosse boîte qui arrivait. J'ai déjà entendu parler d'autres madames qui faisaient toute l'Acadie avec un vélo, c'était des gros appareils-là qui se promenaient d'un bord à l'autre avec un micro.
Avec des bobines?
Avec des bobines, tout le kit. Aujourd'hui, ça a été digitalisé, c'est facile d'accès. C'est tout au centre de documentation à l'Université Laval, à la ville de Québec. Puis, si on fait la demande, ça ne coûte pas si cher que ça, à te faire travailler l'employé pour nous envoyer ça par courriel. Enfin, moi, j'en ai eu quelques-unes. J'ai réussi à faire des biographies de Vincent Viennois, qui est originaire de Le Goulet, de Joe Bolger, également de Le Goulet, que Dr Gauthier avait interviewé. Mais ils sont tous là.
Ils sont archivés, ils sont rentrés dans le système informatique et on peut les retrouver facilement.
Ouais. Non, mais il faut demander à quelqu'un là-bas. Là.
Oui, je comprends.
Pour avoir une copie, mais on peut l'avoir, la copie. Moi, je l'ai eu pour quelques personnes, puis on les entend chanter, on les entend raconter certains contes. Fait que ça s'est fait dans les années 50. Après ça, il y a eu Mgr Donald Robichaud qui a fait des enregistrements, mais lui, il n'a pas tout enregistré tout le temps. Des fois, il enregistrait par-dessus la même cassette, le même ruban. Fait qu'il prenait des notes après ça, puis là, il y avait juste un ruban ou quelque chose. C'est ça, quelque chose comme ça, qu'il m'a déjà raconté. Puis dans les années 70, on a eu un projet dans la région de Valcomo-Tracadie pour, là, également faire des enregistrements qui sont tout le temps à Laval. Eux, ils avaient un plan pour faire un site web qui devait paraître cette année. Ça a été retardé. Fait peut-être, éventuellement, j'en ferai une chronique pleinement sur eux autres. Puis la Société historique Nicolas Denis, eux-mêmes, ont fait des enregistrements avec des personnes âgées, je dirais, à partir de 1973-75. Ils en ont fait en l'an 2000, puis en 2001. Puis ça, c'est disponible aussi à Chipagan.
Alors, pour les gens qui s'intéressent à la généalogie, on pourrait entendre, par exemple, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents sur ces bandes-là.
Absolument. Comme Basile Roussel, qui va être là aussi, lui, fait une recherche sur la linguistique. Lui, il est professeur à l'université à Chipagan. Moi, je vais passer en premier, puis après ça, lui va terminer avec les accents, dans le fond, la langue, comment ça évolue. Puis, comme le corpus de Dr Gauthier, lui, les gens sont nés dans les années 1860, 1870, les plus vieux, là. Fait que c'est un accent qui remonte au 19e siècle, là, l'accent acadien-français de notre région. Dr Gauthier a fait un petit peu généralement Chipagan, Le Goulet, Lamèque. Il a été enregistré quelques personnes de Saint-Simon, Paquetteville, puis Pont-Landry, mais c'était beaucoup, comme je dirais, d'Évangeline à Chipagan, son territoire, là. C'est d'entendre parler ces personnes-là, puis utiliser des termes là. Ça peut être intéressant.
Parce que moi, je ne suis pas acadien, et quand je suis arrivé par ici, j'ai toujours été émerveillé de voir que les gens, même s'ils demeurent à des endroits quand même assez près, parlent pas du tout, pas du tout. C'est le même acadien, mais les expressions, la prononciation n'est pas la même d'un endroit à l'autre.
Non, puis elle diffère aussi de la péninsule à la région Chaleur, mm-hmm. au Madawaska, au Restigouche, puis même ici, entre les villages. Ça, c'est comme ça un petit peu partout chez les Acadiens. Il y a tout ça des petites différenciations de
mais qu'est-ce
de
qui fait que cette prononciation-là est pas pareille d'une place à l'autre?
Ça, Basile Roussel, pour vous répondre ça, c'est vous dimanche.
OK. vous demanderez, au pire, vous reviendrez avec ça. Parce que
il va tout expliquer ça dans sa conférence.
Parfait. Bon, ben, c'est un rendez-vous pour les gens qui s'intéressent ce soir du côté. C'est à quel endroit, Philippe, rappelez-nous?
Ça, c'est à Caraquette à 7 h au Centre culturel. Puis moi, puis Basile, ça va être dimanche à l'université. C'est au local 143. C'est à partir de 14 h, à partir de 2 h.
Merci, Philippe Basque.
Bien, merci, Claude.
Bonne journée.
Bye.
Envie de prendre une marche, mais tanné de votre circuit habituel? Profitez de la saison des marcheurs au Village historique acadien. De la mi-septembre au mois de mars, le site historique est ouvert gratuitement aux marcheurs tous les jours, de 8h à 16h, quand le temps le permet. Avant de partir, vérifiez l'état du sentier en visitant le www.facebook.com/villagehistoriqueacadien.com. Les chiens en laisse sont acceptés, tout comme les vélos. Bonne randonnée!